Je suis pas chrétienne, je regarde, j'observe, je ferai mon opinion moi-même. Donc c'est vrai que c'était peut-être un petit peu froid comme entrée. Et en fait, vraiment, respecter, fais ton chemin, regarde, observe. Le Seigneur va toucher. Et c'est vrai que quand il a fallu, le Seigneur a été touché, m'a touché et m'a vraiment a bouleversé ma vie. Et c'est vrai que ce que vous avez apporté ici, tous les deux, parce que moi, je ne peux pas vous dire, je vais vous dissocier, c'est ensemble. C'est quelque chose de... c'est l'amour du prochain. C'est moi, l'image que je garde d'André, la première image qui m'a marquée, c'est le jour, la veille de notre mariage, en fait, il y avait tout le monde qui était en train de faire la déco, et tu étais là en train de frotter les murs et tout, tu étais en train de t'activer pour préparer la salle, et je me suis dit, mais il est pasteur, il est en train de faire du nettoyage, préparer la salle pour notre mariage, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Il est impliqué. Pour chacun d'entre nous, il est impliqué jusqu'au bout, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marquée. Et puis, effectivement, je rejoins un peu ce que disait tout à l'heure Jean-Baptiste. C'est vrai que je suis arrivée avec des préjugés aussi, en me disant, je venais d'une famille non chrétienne, il y a les gens qui ont la foi d'un côté, puis il y a les gens, les scientifiques de l'autre. Et ça ne peut pas matcher, ça ne peut pas marcher. Et puis moi, qui aimais le raisonnement scientifique, je me disais, comment je fais? Alors, si je veux croire en Dieu, ça ne marche pas, je ne peux pas, puisque j'aime les sciences, et voilà. Et en fait, il m'a fait voir que non, ce n'est pas incompatible du tout. Et ça, il a brisé un gros préjugé qui m'a aidé vraiment à me rapprocher du Seigneur. Et ça, c'était important aussi pour moi.
En cette période de crise financière, moi, je vais vous dire que ce qui m'a marqué le plus chez André Hubert, c'est l'investisseur. Non, rassurez-vous, il n'a pas des cotations en bourse dont il aurait oublié de vous parler. En arrivée, moi, première fois que j'ai franchi cette porte, j'avais lu dans un bouquin qui s'appelle La Bible que si je voulais être sauvé, il fallait que je sois baptisé. Donc j'étais obligé de rentrer dans une église pour me faire asperger un petit peu par un gars qui avait le diplôme, qui allait bien. Et après, je retournais mener ma vie. Hein. Puis celle qui allait devenir ma femme, elle, Jésus, elle ne savait même pas de quoi on parlait. Elle pensait que c'était une obscure pub du fond de son enfance. Ça lui évoquait rien. Donc c'était pas gagné. Et malgré ça, on a été accueillis, comme toutes les personnes le sont ici. La première fois qu'on a été invité à manger, je me rappelle encore, je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué, André avait sorti une bouteille d'Alsace avec un petit filet doré. Me demandez pas pourquoi ça m'a marqué. J'étais persuadé d'être personne et je ne comprenais pas pourquoi André et Michel mettaient les petits plats dans les grands comme si on était des gens importants. En fait, j'ai compris depuis, il considère que chacun est important. Donc il investit dans l'humain, il investit aussi dans le ministère. Pareil, je venais d'arriver, je venais de me convertir. Ma Bible de mariage, je l'ai amenée avec moi aujourd'hui. La Bible Thomson, Bible d'études. Et puis ils avaient rajouté un petit truc de leur part, ils avaient rajouté une concordance. Des fois qu'on a envie d'étudier. Et donc malgré ça, excusez-moi, avec l'émotion, j'ai noté quelques trucs sur mon téléphone pour être sûr de ne pas oublier. Oui, je regarde leur Florence. Voilà, cet amour de la parole, cette envie de la partager, et surtout le fait que la parole pour André, c'est pas juste pour les prêches. Parce que tout ce que j'ai vu pendant ces 12 années que j'ai passé au milieu de vous, c'est qu'en fait, il l'appliquait à la maison. Il l'appliquait au boulot, il l'appliquait dans chaque chose qu'il faisait. Quand il est au supermarché en train de s'acheter une boîte de clous, c'est toujours le chrétien qui est là, c'est pas une personne différente de celle qui est en chair. Et il a réussi, alors Christelle vous parlait de son cerveau d'ingénieur, etc. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a toujours, moi ça m'a beaucoup marqué, qui a toujours recherché la cohérence dans tout ce qu'il faisait. Quand il y avait un truc au travail qui marchait, il disait « si ça marche, normalement ça doit être compatible avec la parole de Dieu ». Et ça, tous ceux qui font partie du conseil, on le sait, parce que le nombre de fois où il est venu en disant « dans l'entreprise, on fait des patrons, ça marche, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec la parole ». Beaucoup d'humilité aussi, parce que quand on arrive, on se dit le pasteur c'est le patron à l'église. On s'attend pas à ce que le pasteur il accepte de se faire reprendre par des jeunes chrétiens, encore moins à ce qu'il le recherche. Et pourtant c'est le cas. C'est le cas. Il l'a même instauré en système du temps que j'étais là. et à chercher des gens qui soient capables de faire entendre d'autres voix que la sienne au sein de l'Église. J'étais aussi marqué, une des premières phrases d'André qui m'a profondément marqué. Donc, je vous rappelle, on arrive, on est en train de se convertir, on se marie, on se baptise. 3 mois après notre mariage, André et Michel nous reçoivent, nous disent « Bon, on a à cœur que des gens reprennent le groupe de jeunes et on pense que c'est vous. » Non, non.
On n'aime pas les jeunes.
On n'aime pas les jeunes.
C'était vrai. À l'époque.
Mais comme vous êtes adorables, on a fini par vous aimer quand même.
C'est clair.
On était tellement sérieux qu'ils nous ont cru. Mais en même temps, comme ils sont très soumis à ce qu'ils reçoivent de la part de Dieu, ils ont persisté. Donc on a commencé le groupe de jeunes. Et là, il y a eu un moment horrible. Donc ça s'est bien passé, hein, c'était adorable. On a fait notre première session sur les vacances de février. On a refait une sur les vacances d'avril. Et on arrive à l'été. Et là, on est reçu. On s'attend à nous dire, c'est bien, vous avez bien bossé. Et là, la première question, c'est quelle est votre vision ? Ah bah alors on a fait ci, on a fait ça, t'es... Non. Quelle est votre vision ? L'année prochaine, on pense... Non. Quelle est votre vision ? Vous vous rappelez dans la Bible, quand Dieu questionne Élie, « Élie, que fais-tu là ?» Quand Jésus pose des questions à la Samaritaine et tout ça. Cette façon de faire, on l'a retrouvée aussi dans André. Pas à affirmer, c'est un homme... Pourtant, qui a des convictions, c'est un homme qui est sûr de lui. Mais quand il parle aux gens, il les questionne pour les aider à arriver à comprendre quel est l'enjeu. Et au bout d'un moment, j'ai compris, j'ai fait « Ok, André, on s'est raté, on a fait les choses, mais on n'avait pas de vision. On va prier, on va chercher une vision et on revient te voir dès qu'on en a une. » Et ça... C'est pénible ce téléphone, n'arrête pas de se mettre en veille. Je sais plus où j'en suis, moi. Et je n'ai plus que 4 minutes. Et ce questionnement, il vient du fait que André, c'est un Alsacien. C'est quelqu'un très sûr de lui. Il est très péremptoire. Il a un caractère forgé de l'an de l'acier. Et en fait, tout ça, il l'a abandonné. Alors, ça ressort de temps en temps. Parce qu'on a tous notre... Mais il l'a abandonné. Ouais, je sais, ça fait rire comme ça quand on le dit. Mais j'aimerais bien qu'on dise de moi dans quelques années que j'ai réussi à abandonner ma nature pour acquérir cette douceur du Saint-Esprit. Parce que mon frère, qui est pasteur aussi, à un moment donné, pendant la préparation baptême, il est venu me voir et il m'a dit « Mais Arnaud, mais en fait, tu ne vas pas te faire baptiser. » Je fais « Si, Didier, je suis en train de me préparer au baptême, c'est bien que je vais me faire baptiser. » Il dit « Non, ce n'est pas possible. Regarde ta vie, là, telle chose. » T'es en situation de péché, tu peux pas être baptisé maintenant, parce que sinon, tu serais aussitôt en situation de péché juste après. Je l'ai détesté pour ça, alors qu'il avait raison. On a entendu ici un pasteur un jour qui nous a dit qu'on pouvait faire mal, on pouvait blesser avec la vérité. Et c'est vrai aussi, c'est quelque chose que Jésus évitait de faire. Et c'est quelque chose qu'André aussi évitait de faire. Parce que je suis allé le voir, j'ai dit « Attends André, faut qu'on parle ». On était au fond de la salle. J'ai chopé à la fin du culte. J'ai dit « Est-ce que c'est vrai que je ne peux pas être baptisé maintenant à cause de ça ?» Il me dit « Oui, c'est vrai. » Et là, donc, j'ai craqué. Je crois que je n'ai jamais autant pleuré que depuis que j'étais dans cette église. Je commence à craquer. Je fais « Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Il m'a répondu « Parce que j'attendais que le Saint-Esprit t'en parle avant qu'on en discute. » Et ça, ce n'est pas sa nature. Ça, c'est la douceur du Saint-Esprit dans sa vie. Et quand on a un pasteur qui se laisse guider par le Saint-Esprit, il peut se passer des choses dans l'Église. Il me l'a fait à d'autres coups. Moi, je voulais, pareil, avoir ce côté pratique. Je lis un truc dans la parole, ça doit marcher dans la vie. Gédéon, il demande que la toison elle soit mouillée, le sol à côté il soit sec. Le lendemain, il demande l'inverse pour savoir s'il doit faire quelque chose. Le jour où j'ai voulu muter professionnellement... J'ai regardé, il y avait mon beau-père qui était en train de faire des travaux, il y avait des marches en ciment qu'on avait commencé à casser, qui tenaient par les tiges métalliques. J'avais ça dans mon jardin tous les jours. Je fais « Bon, Seigneur, si tu veux que je mute, tu permets que cette marche, la tige métallique, elle se casse et elle tombe. » Et puis je voulais muter. Et la marche, elle voulait pas tomber. Donc un jour, je vais voir André, je fais, ça fait je sais pas combien de temps que je prie, le Seigneur ne veut pas m'accorder le signe que je lui demande. Mais Arnaud, est-ce que ça dépend de toi ? Non. Si tu demandes, est-ce que tu auras forcément satisfaction ? Non. Alors, tu es en train de nous faire quoi ? Tu demandes à Dieu qu'il ouvre les portes qui doivent être ouvertes, qu'il ferme celles qui doivent être fermées, tu pries, et tu fais ce dont tu as envie. Dieu peut parler aussi dans ton cœur, il peut susciter les envies. Ah ! Je m'étais compliqué la vie pour rien alors ? Est-ce que la parole est toujours la solution, mais encore faut-il bien la connaître, bien l'appliquer, bien la comprendre. Et voilà, c'est ce côté pratique, c'est cette intelligence pratique qu'il y avait. Une chose aussi, moi j'avais un peu peur, je suis flic. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez à ceux qui vous ont enfoncé. Les machins là qui me jettent des pierres, faut que... Et en fait... Une des choses qui a fait que ça a matché énormément avec André, c'est que oui, il y a cet amour. Mais il n'y a pas la naïveté qu'on rencontre souvent dans des milieux chrétiens. Même le roi David, qui était capable de ne pas utiliser les situations pour Saül, etc. Et on l'admire pour ça. Un homme selon le cœur de Dieu. Mais par contre, si vous voyez, à la fin de sa vie, il a fait quelque chose. Il a chopé son fils Salomon, il a fait « Alors, pendant ma vie, j'ai oublié de régler quelques trucs, il y a ce général-là qui a versé le sang, tu ne le laisseras pas impuni. » Il n'a pas réglé certains problèmes de son vivant. Avec André Hubert, j'ai appris qu'on pouvait aimer les gens et pour autant poser les choses sur la table. Cette discipline, cette notion de discipline qu'on a essayé d'apprendre dans cette église, c'est pas quelque chose qui vient pas de l'amour. Au contraire, c'est quelque chose qui vient de l'amour pour pas laisser les situations pourrir et empirer. Et ça, c'est une grande leçon que j'ai encore du mal à voir aussi aujourd'hui, à utiliser au travail, parce qu'il y a toujours des trucs qu'il faut régler de suite. Et c'est tellement tentant de les laisser, les remettre à plus tard. Le temps imparti est bientôt fini. J'aurais voulu vous parler des réunions d'hommes, j'aurais voulu parler des réunions du conseil où en fait on était là pour prendre des décisions mais on continue à apprendre. La puissance de travail d'André, ça c'est un truc, moi j'étais fier du nombre d'heures que j'étais capable d'aligner au travail, mais à côté de lui, quand est-ce qu'il dort cet homme-là ? Un ministère réussi en tant que pasteur, une carrière réussie à l'aérospatiale, une famille qui était un modèle pour nous, je peux vous le dire, parce que Olivier, c'était mon confident. Et puis Florence, on a partagé l'aventure de groupe de jeunes pendant quelques années. Samuel, il a travaillé un an avec nous avant de partir à la louange. Mais voilà, c'est cette famille qui était au service de Dieu et qui nous aimait aussi. Voilà. Je vais être un peu déplaisant, mais je voudrais rappeler quelque chose parce que on en a parlé beaucoup en théorie, cette séparation de l'Église. En fait, quand on dit c'est l'Église a vécu une séparation, on a reconstruit, etc., c'est très intellectuel tout ça. On arrive à Saint-Yor, un mois après notre arrivée, même pas, quelques semaines après notre arrivée, il y a une séparation d'Église. Et là, on a vu le pasteur sombrer en dépression. On a vu l'envie d'abandonner. On a vu à quel point toute sa vie semblait remise en cause. Et là, en fait, seulement là, on a compris, ah mais en fait, c'est ça qu'ils ont traversé André et Michel. Et malgré tout, par amour des hommes et par amour de Dieu, ils ont mis de côté tout ce sentiment de trahison, parce que les gens qui sont partis, les gens qui ont critiqué, c'était des gens qu'ils ont aimés, avec qui ils ont prié, avec qui ils ont construit l'Église. Et ce sont des gens qui avaient probablement leur raison de faire. Aujourd'hui, ce n'est pas pour les juger que je le dis. Mais par contre, le sentiment de trahison, la tristesse d'avoir des gens avec qui on a travaillé à la muraille et à qui on a travaillé au temple, elle est là, et ça peut donner envie de mourir, de perdre cette relation-là et de voir l'Église qui se déchire. Et ben c'est ça qu'ils ont traversé, et malgré tout, par soumission envers Dieu, ils ont remonté cette Église. Et on est là aujourd'hui. Et on est là pour servir Dieu et pour l'honorer.
Ils sont même venus pour aider notre pasteur et justement à faire passer cette étape qui aujourd'hui vous en remercie toujours énormément, parce qu'aujourd'hui l'Église est remontée et elle est d'attaque.
Je vais vraiment prendre que 2 minutes pour finir, parce que là Florence est dans les starting blocks et chaque fois qu'elle croit que j'arrête, elle est sur le point de tomber. Tout ça pour dire, André a été mon premier pasteur. Ça a été mon modèle de chrétien. Ça a été mon modèle d'homme de Dieu aussi, puisque j'avais grandi dans une famille qui était pas chrétienne. C'était un modèle de force de famille. C'était quelqu'un que j'admirais. C'était quelqu'un que j'aimais. À un moment donné, je me suis retrouvé face à une difficulté. Je me suis dit, j'aime tellement André et je l'admire tellement. Il risque de prendre dans mon cœur la place qui ne revient qu'à Jésus. Et j'ai continué à travailler au sein de cette église en essayant d'être toujours proche de mon pasteur, mais en mettant un petit peu de distance avec l'homme parce que je sentais que je l'aimais trop et je voulais pas que ça passe avant Jésus. Et malgré ça, quand on est parti, on a eu des tas de cadeaux de votre part, et vraiment merci. Et il y en a un, je ne sais pas si c'était qui l'avait choisi et pourquoi, mais en fait, ça a été un cadeau qui a fait un ricochet dans mon cœur. C'était la petite peluche, c'était probablement le cadeau le moins cher de tous, un petit chien avec un nonos, et sur le nonos, c'était marqué « Tu es un super frangin ». Et je me suis dit, bah, en partant, ouais, c'était la phrase que j'avais envie de garder. C'est vrai pour beaucoup d'entre vous, mais maintenant que je suis plus ton disciple, puisque je suis loin, maintenant que je travaille plus sous tes ordres, maintenant que je travaille plus avec toi, même si j'espère que ça reviendra un jour, André, ce que j'ai envie d'être, c'est d'être ton frère en Christ. Et je voulais dire aujourd'hui, toi aussi, André, tu as toujours été et tu es toujours un super frangin. Joyeux anniversaire.
Merci, un beau témoignage. Bien sûr, on veut honorer les gens, mais c'est aussi, bien sûr, rendre gloire à ce que Dieu peut faire à travers une vie et dans une vie. Voilà, gloire à Dieu, merci. Et merci aussi, c'est vrai que les quatre là qui sont intervenus pour le témoignage, on les a prévenus relativement tardivement. Donc voilà, merci d'avoir été prêts. Donc maintenant, je laisse la place à ma maman, Michel, qui va dire un petit mot et qui va introduire ensuite Philippe.
Bon, c'est un petit peu gênant tous ces compliments, vous savez que je ne suis pas très à l'aise avec ça, mais bon, j'avais demandé quand les enfants m'ont mis au courant, tardivement, de ce qu'ils avaient l'intention de faire. Vous savez, quand ils sont grands, c'est fini, hein. On n'a plus trop son mot à dire. Et voilà, toutes les erreurs d'éducation qu'on a commises, bah, c'est foutu. Et donc, j'étais pas trop chaude, franchement. Et j'ai dit, je veux pas de panégyrique, je veux pas de, voilà, tout centré sur l'homme, etc. C'est bien joli, mais ça, c'est pas juste, c'est pas juste. Et en réfléchissant, je dis, vous savez, on fait ça aux enterrements. En fait, les gens qui meurent, ils sont parfaits, quoi. Et ça, j'aime pas non plus. J'aime pas non plus. Il y a une authenticité. Et merci, merci Arnaud d'avoir dit que voilà, le caractère ressort de temps en temps et tout. Je suis bien placée pour le savoir. Et que voilà, il fait des efforts aussi pour se laisser guider par l'esprit, etc. C'est bien. Ceci étant, j'avais l'intention pour présenter Philippe Figuière et Joy. C'est quand même nécessaire que vous sachiez quelque chose que beaucoup de gens ici ne savent pas. Je pense qu'en dehors des Casalis, peut-être, Julie aussi, enfin, Marie-France peut-être, je ne sais pas. Voilà, on vivait une époque très difficile dans l'Église, il y a 20 ans. Et on avait pensé, dans notre grande naïveté, qu'en demandant à 3 ou 4 amis pasteurs de nous aider, on allait pouvoir s'en sortir. 3 des 4, il y en a un qui... Il a donné une vidéo, Jean-Paul ? Oh, le vilain. Bon, mais il nous a beaucoup aidés parce qu'il était vraiment fondé sur la parole de Dieu. Les 3 autres ont résolu notre problème en allant voir quelqu'un derrière notre dos pour qu'il prenne notre place, tout simplement, qu'il vienne être pasteur ici, sans qu'on soit au courant, évidemment. C'était une solution radicale. On n'était pas au courant. Et vous savez comment Dieu a de l'humour. C'est formidable. Moi, j'aime Dieu parce qu'il a tellement d'humour. Moi, parce que j'aime rire. Et vraiment, un Dieu qui a de l'humour, c'est merveilleux. Et du coup, il a fait que dans notre petite tête, on s'est dit, tiens, ce serait le moment d'inviter Philippe. On les connaissait depuis un bout et on les aimait beaucoup. On les aime toujours, d'ailleurs. Même s'ils viennent pas facilement quand on les invite. Mais enfin, là, ils ont fait un effort. Et à cause du ministère, bien sûr, ils ont beaucoup voyagé. Et donc, on s'est dit, tiens, ce serait bien qu'on les invite. Et donc, ils sont venus. Et puis, on était dans le salon. Et oh, Ricardo, tu dois t'en souvenir, je pense, de cette histoire. Et on était dans le salon, et il avait l'air un peu gêné, là, c'est pas son habitude. Et au bout d'un moment, il nous dit, vous êtes vraiment épuisé. Oh, c'est sûr qu'on est fatigué, mais vous avez l'intention d'arrêter le ministère pastoral ? Eh, on aurait bien voulu, mais on a prié, vraiment, le Seigneur nous a montré que non, il faut qu'on tienne bon, il faut qu'on reste. Oh, il commençait à être un peu gêné. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Lui, non, mais c'est pas grave. Et il nous dit, bah, écoute, il faut qu'on te dise, on a été contacté pour prendre votre place. Et comme on veut pas vous faire un petit dans le dos, ça c'était l'expression qu'il a utilisée, on préférait en parler avec vous d'abord. Il prenait des risques parce que il s'est montré extrêmement loyal. Je pense que ça aurait été très intéressant pour lui de venir ici, dans la période qu'il vivait en plus, ça aurait été très sympathique pour lui. Mais il n'a pas regardé son intérêt personnel. Et lui et Joy ont choisi de nous en parler, avec loyauté. Ce qui fait que le problème a pu être réglé assez rapidement, parce que quand les intéressés ont su qu'on était au courant, ils étaient très mal à l'aise. Mais voilà, je pense que, vous savez, parfois on dit, oh, les curés ceci, les pasteurs cela, les chrétiens ceci. Mais je pense qu'on fixe trop d'attention sur les choses négatives. Et que moi, je sais que cet événement-là a marqué ma vie. Oui, il y a des chrétiens de parole, il y a des chrétiens loyaux, il y a des chrétiens qui regardent pas leur intérêt, même quand on leur présente quelque chose de super intéressant. Il y a des chrétiens qui sont capables. Donc vous voyez, souvent on dit, ah ben parce qu'ils sont chrétiens, ils doivent tous être parfaits, etc. Non, bien sûr. Mais on fixe souvent trop nos attentions sur les choses négatives. Des gens religieux, soit catholiques, protestants ou autres. Hein. On regarde le négatif. Et je pense qu'il faut de temps en temps, et c'était mon but aujourd'hui, de dire oui, il y a encore des gens qui sont loyaux, qui sont vrais, qui sont sincères, même si c'est à leur dépens. Et c'était le cas là. Et c'est ça aussi que je veux un peu célébrer aujourd'hui. C'est, voilà, si on est ce qu'on est aujourd'hui, si on est là déjà, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été loyaux. Et il y a des gens qui ont été sérieux autour de nous, des gens qui ont été remplis de grâce. Si André est ce qu'il est aujourd'hui, bien sûr c'est grâce au Seigneur, c'est grâce à moi bien sûr, mais c'est aussi parce qu'on a été entouré d'une église qui avait le sens du pardon, le sens de la grâce, on l'a vécu, et je ne peux pas m'empêcher, je suis très contente que Ricardo soit là, je pense que vous savez tous qui est Ricardo, lui il n'a aucune idée de qui vous êtes, c'est pas grave, mais tout le monde te connaît Ricardo. Voilà, eh bien écoutez, si vous le connaissez, je pense que vous avez entendu l'expression « clarté ». C'est l'auteur. Dans ces moments difficiles, Dieu a placé Ricardo à côté de nous. Je ne suis pas sûre qu'il était très consentant, mais vous savez, avec Dieu, on ne peut pas toujours discuter. Quand il veut quelque chose, il n'a pas pu discuter. Et je pense qu'aussi, si on est ce qu'on est aujourd'hui, si l'Église est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il a beaucoup fait pour nous aider, pour nous coacher. Il était pénible parfois, mais c'est pas grave. Et il nous a coachés avec beaucoup de zèle, beaucoup de patience. Et voilà, c'est une grâce du Seigneur. Bien sûr, je le dis pas pour faire enfler ses chevilles, mais toute l'Église te connaît, Ricardo, parce qu'on parle souvent de toi, de tout ce que tu nous as apporté dans cette période où nous, on aurait pu vraiment couler. Avec 19. Ah oui, tu vois Ricardo, hein, c'est pas moi. Hein. Voilà, donc merci au Seigneur de t'avoir convaincu. Merci à toi d'avoir obéi. Parce que je pense que si André est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'aussi il a eu un bon coach, assez pénible par moment, mais vraiment un bon coach que Dieu a mis sur sa route. Et voilà, l'Église a été fidèle. Et le verset qui m'est venu ce matin, ce que j'ai cherché depuis plusieurs jours. Ah là là, c'était quoi ? 7:12, j'arrive pas à le retenir. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne et il l'appela du nom de Ebenezer. Vous savez, les Israélites, quand il y avait quelque chose d'important, ils dressaient une pierre. C'était un peu la façon de faire de l'époque. Maintenant, nous, on fait des fêtes ou des réunions spéciales. Bon, ben voilà, ils dressaient une pierre. En disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et bien sûr, on se réjouit des compliments et tout, mais je crois qu'avant tout, ce qu'on veut fêter aujourd'hui, c'est que, avec des gens imparfaits, je suis bien placée pour le savoir aussi, avec des gens imparfaits, Dieu est bon, Dieu est patient. On a été entouré de gens qui nous ont fait grâce, et encore aujourd'hui, si André est ce qu'il est, grâce à Dieu, grâce à l'Église, grâce aux gens qui ont été placés sur notre route, et on peut dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et c'est grâce à lui qu'on ait pu, qu'André a pu devenir ce qu'il est, qu'on a pu faire des progrès, qu'on a pu avancer, qu'on a pu résoudre certains problèmes. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est ce que je veux qu'on fête aujourd'hui. Plus au-delà de l'homme, au-delà de voilà tout ce qui a été dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et je pense que la vie d'André, notre vie, est un témoignage de ce que des gens imparfaits, limités, oui, bien sûr, par le caractère, par la culture, par plein de choses, limité, de ce que Dieu peut faire avec des gens comme nous. Et s'il l'a fait pour nous, il peut le faire avec n'importe qui d'entre vous. Et vous pourrez dire, j'espère, dans quelques temps, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Parce que le Seigneur est là, et c'est lui qui fait de nous ce qu'on est. Alors, bien sûr, je pense que moi aussi, je vais rajouter une petite qualité qui est très importante, c'est l'enseignabilité. Et bien sûr, André a tous ses défauts, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais il a une qualité énorme, c'est être enseignable. Il est capable d'apprendre de n'importe qui, s'il sent que la personne parle de la part du Seigneur. Et ça, c'est formidable. C'est quelque chose qui nous permet de grandir. C'est quelque chose qui m'a aidée moi aussi, parce que venant des ADD, je n'étais pas forcément très enseignable. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez deviner. Mais j'ai appris avec lui aussi à être enseignable, à apprendre de l'un, de l'autre et de tout ce que le Seigneur... Et ça, ça nous fait grandir. Et voilà, que merci pour cette journée. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus.
Voilà, bonjour à tous. Voilà, je connais personne, sauf Marielle, parce que vous nous avez piqué Marielle, et ça c'est pas sympa. Voilà, je suis désolé. Vous connaissez les causes de ma dépression et je... Alors voilà, merci Michel pour ce que tu as dit de nous, et en fait je dois vous avouer que nous avions complètement oublié cet épisode parce que pour nous c'était normal de parler comme ça. Je dois dire que pour aller au ciel et en allant au ciel, je n'ai pas envie, nous n'avons pas envie, Joy et moi, de partir là-haut avec des casseroles. Et ensuite, j'ai envie de me regarder tous les matins dans la glace sans avoir à rougir de honte. Et je pense qu'effectivement, je pense que la loyauté, c'est une vertu telle que Jésus nous l'a enseignée parce que lui était loyal. Donc voilà, j'avais complètement oublié cet épisode. J'ai pas minimisé l'affaire, hein, mais ça m'est complètement sorti de la tête. Voilà. Après, c'est revenu parce que comme j'ai un peu des tendances de perte de mémoire. Voilà. Alors je rebondis sur ce qu'a dit Michel pour commencer la méditation de ce matin. Tu dis enseignable. Alors Michel, je vais jouer au professeur. On dit pas enseignable, on dit docile, parce que ça vient du latin doceo qui veut dire enseigner. Et en fait, quand on parle de docilité, on n'ose plus de nos jours parce que ça donne l'impression d'être un peu gnangnan et puis du style « je me laisse marcher sur les pieds », etc. Mais la docilité, la définition de la docilité, c'est le fait de se laisser enseigner. Et c'est ce matin ce que je voudrais partager avec vous de manière peut-être un peu originale. Je vais lire le psaume 51, le psaume qui parle de la repentance de David. Je vais essayer de regarder ce psaume de manière un peu plus originale. J'aimerais un peu vous choquer. Je l'espère, en tout cas, les jeunes surtout. Voilà, les plus anciens, ils se débrouillent. Voilà. Bon. Psaume 51, je le lis en entier. Vous m'entendez ? Ça va ? Ça résonne pas ? D'accord. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes transgressions, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Car je reconnais mes torts, la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère, j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté. Ne considère plus mes péchés, tous mes torts efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie du salut que tu accomplis et affermis-moi par ton esprit généreux. Je m'arrête un peu sur le verset 15 que je vais lire, qui est un petit peu la conclusion de notre méditation de ce matin. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors par mes chants, je proclamerai ta justice. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai, car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Verset 19, sur lequel je m'appuierai également. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion. Et bâtis les murs de Jérusalem, bâtis les murs de Jérusalem, bâtis mes murs, Seigneur. Ça va être le troisième point. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi, holocauste et offrande totale, et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Alors jusque-là, notre lecture. La docilité, c'est la capacité de se laisser enseigner, enseignable, selon Michel, dictionnaire Michel Hubert. J'aime bien la chahuter, ça fait longtemps, j'ai mis 20 ans à le faire. Hein, bon, voilà. Donc, péché, oui, péché gravement, oui. Vivre ça de manière dramatique, on est d'accord. Mais comment rebondir ? Comment rebondir et comment tirer des enseignements par rapport à une situation de péché ? Je ne vais pas parler seulement de péchés graves ce matin, je vais aussi parler de nos fragilités, notre apprentissage, nos erreurs, comment pouvoir rebondir dans une attitude de docilité, une attitude où l'on veut tirer des leçons de la vie pour aller plus loin. Et je vais par cela même illustrer tous ces points-là, en vous parlant un petit peu, puisqu'il y a pas mal de franco-américains ici, de la mentalité américaine, de la manière dont les Américains voient la vie versus les Français. Et en lisant, ça m'arrive de lire des articles de business, pourtant je suis nul là-dedans, aussi nul que moi, ça fait peur. J'ai lu donc qu'entreprendre aux USA, quand on regarde un curriculum vitae pour un emploi, les Américains partent du principe, en tout cas les ressources humaines aux États-Unis partent du principe que l'on a droit à l'échec. Aux USA, un dépôt de bilan, une période de chômage, une erreur de parcours n'est pas un handicap. Pour les DRH, donc les ressources humaines, c'est même plutôt un critère favorable à un recrutement ou à une évolution de carrière. Alors, je ne sais pas si pour vous c'est un scoop, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Les DRH cherchent l'erreur dans le parcours. Et si quelqu'un présente un curriculum vitae, je dirais, impeccable, et la personne risque de ne pas être prise parce qu'on part du principe que cette personne-là, elle n'a rien appris dans la vie. Et on ne pourra pas lui permettre de travailler sur elle-même et de pouvoir évoluer et ensuite être créative dans l'entreprise. L'erreur ne marque pas à vie comme une tache très sale et indélébile sur sa chemise, ce que par contre les Français qualifient d'échec. Les Américains appellent cela expérience. Eh, c'est intéressant, hein ? Hein ? Ça va, vous ennuyez pas ? Tant mieux. Bon, voilà. J'ai beaucoup travaillé, en fait. Donc, aux yeux des recruteurs, cela vaut mieux qu'un bon diplôme et une mentalité bien loin du faire juste et bien du premier coup à la française. Pour ceux qui ont été dans l'entreprise, pour ceux que ce que je n'ai pas été, moi j'ai été éducateur et pasteur, donc voilà, c'est voilà, on fait ce qu'on peut. En fait, on s'aperçoit que dans la mentalité française, on attend le faire juste et bien du premier coup. Et si cela ne se passe pas comme ça, on est victime de ce qui s'appelle la honte. Alors Catherine Barba, qui était une Française installée à New York, à la tête de Peps Lab, plein d'expériences pour se réinventer, lut un jour dans un article de journal gratuit, là, dans le métro, la page emploi et éducation. Et elle lit ce titre-là, et elle lit ceci, elle dit « Pourquoi l'échec est important pour la créativité ?» Sans faire l'apologie de l'échec, l'article en parlait sans tabou. Et là, je vous provoque un peu, cet article disait « Il est important d'échouer, faites des choses, plantez-vous, etc. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. » Quel rapport avec le texte que nous avons lu, le texte de Psaume 51 ? Que pouvons-nous tirer dans l'immédiat de ces premières réflexions ? Nos ratés, nos tentatives infructueuses, nos erreurs, nos galères, finalement, finissent par nous construire. Vous avez vu un peu ? Bâti les murs de Jérusalem, rebâti les murs de Jérusalem. Se bâtir les murs de Jérusalem, c'est mes propres murs à moi qui se rebâtissent, bien évidemment, si on spiritualise un peu le texte. Il s'agit de se reconstruire, de se solidifier. Ouais. Une situation de péché, pour rebondir, doit conduire à une reconstruction. Non pas seulement, et je ne le néglige pas, à une demande de pardon profonde, à un regret profond, ce qui est absolument nécessaire pour pouvoir avancer, mais pour ensuite évoluer, voire même créer, parce qu'on va retirer des leçons constructives pour aller plus loin. Et c'est le principe, c'est la dynamique du royaume de Dieu. Et on peut appliquer cela donc à la teneur du psaume 51, verset 5 et verset 8. « Je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. » D'accord, ça te poursuit sans cesse, mais il faudrait quand même que ça s'arrête, parce qu'il faut que tu évolues. Bien sympa, mais quand même, avance, parce que tu ne peux pas en rester là. Lui raconte son histoire, il narre son expérience, il dit « Pendant un temps, ça me prenait la tête. » Enfin bon, ce n'était pas traduit comme ça, mais bon, c'est ce qu'on va dire auprès des jeunes, ça me prend la tête. Bon. Et verset 8, « Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. » La sincérité, ça se construit. La sincérité, ça n'est pas inné. La sincérité, c'est quelque chose qui se travaille et qui se travaille tous les jours. Aujourd'hui, on peut être loyal. Demain, on peut être... Permettez le mot salopard, c'est français. Ça n'est pas vulgaire. Voilà. Bon, alors. Celui-ci parle du péché... de David, qui est plus qu'une erreur de parcours, on est bien d'accord, je ne minimise pas le péché. Le péché, ce n'est pas un accident de travail. Hein. Ouais, pas rigolé non plus. Hein. Bon, alors, il faut être sérieux, quoi, et profond, n'est-ce pas, André ? Celui-ci parle du péché de David, qui est plus qu'une erreur de parcours ou une fragilité quelconque. C'est une faute morale grave qui demande une profonde repentance. On est d'accord. On est biblique. On est théologiquement correct. Celle-ci nous ouvre à la grâce de Dieu qui, elle, nous aidera à nous reconstruire. C'est-à-dire que la grâce est un processus. Un processus de reconstruction qu'il ne faut pas interrompre. Parce que sinon, on arrête le processus d'homme fait, d'homme mûr. La grâce est un ensemble de machines-outils qui nous permettent d'élaborer une construction pour que l'on puisse être efficace, être en marche, etc. Et pas seulement nous permettra, et bien plus loin, non seulement ça nous permettra d'aller bien plus loin avec Dieu, mais ça nous donnera aussi d'aller au plus profond de la connaissance de nous-mêmes. Selwyn Hughes disait qu'il y avait un élément simultané. Dans notre connaissance de Dieu, nous enclenchons ainsi aussi un processus de connaissance de nous-mêmes. Ça va ensemble. Ça n'est pas quelque chose d'égocentrique. Connaître Dieu et se connaître soi-même vont ensemble et vont en même temps. Dans Genèse 12.1, il y a une petite subtilité en hébreu qui a été relevée par Rabbi Gemaliel au XIe siècle et reprise par Chouraki dans la Bible de Jérusalem. Va vers le pays que je te montrerai. Donc, mouvement de foi en avant. Mais une petite subtilité, une préposition en hébreu. L'erlecha va pour toi, va vers toi. Ça n'est pas relevé dans les traductions, mais quand on regarde bien, c'est ça. Va vers toi, vers le pays que je te montrerai. Va vers toi-même pour aller en avant, pour mieux me connaître. Alors, la notion d'échec et l'acceptation de celui-ci est-il malgré tout un sujet tabou chez nous, à l'instar de la mentalité française? Avons-nous honte de l'admettre? Je prends l'exemple de ce fossé culturel entre la France et les USA, toujours, pour illustrer mon propos. L'Amérique est un pays jeune et reste le pays de l'entreprise, le monde des affaires est parfois vu comme un jeu. Ils sont fous, ces Américains. Ma femme est américaine. Bon, je peux vous dire qu'elles sont... Bon. Mais voilà, il y a moins de complexes, on va dire. La vie est un jeu où l'on perd ou l'on gagne. Et ils tentent le coup. Ça, c'est bon, c'est mauvais côté. On est bien d'accord. Nous héritons d'un lourd passé, mentalité grecque, antique et esprit cartésien qui ne permet pas de réellement se confronter à l'échec, voire de prendre des risques. Ça commence un peu à bouger dans la mentalité française, mais seulement maintenant. On a à peu près 50 ans de retard, comme d'hab. Et donc, la notion d'échec est encore trop marquée au fer rouge. Et pour bien illustrer mon propos, pour ceux qui ont fait de la philo, pour les philosophes occidentaux, il n'y a aucun livre important sur l'échec. J'ai un de mes jeunes là, qui a fait la fac de Vaud, là, qui est lui aussi est alsacien, comme Jonathan Berly, hein, donc voilà, John, il a fait de la philo, et il n'y a aucun livre intéressant sur l'échec. On a eu une espèce de pudeur gênée. Pour Descartes, par exemple, le philosophe français, l'échec traduit forcément un mauvais usage de notre volonté. Vous voyez, paf, c'est condamnatoire. De toute façon, votre volonté est pourrie. Ouais, voilà, bon. Et puis, on ne parle pas, fort bizarrement, du passé très long, semé des défaites et des frustrations de grands personnages de l'histoire. Pourtant, ils ont su apprendre de leur parcours difficile. Des sportifs qui ont eu un vif succès au début de carrière n'ont finalement rien appris et ont disparu dans l'oubli. Je prends un exemple pour les jeunes. Qui c'est qui aime le tennis parmi les jeunes et parmi les... Ah, on y va. Bon, je cite deux noms, Richard Gasquet et Rafael Nadal. Pendant que Rafael Nadal et Richard Gasquet étaient très jeunes, Richard Gasquet n'arrêtait pas de mettre des pâtés à Rafael Nadal. Je ne sais pas si vous le saviez, ça, mais qui le savait ? Ouais, et ouais ! Il se prenait des raclées par Gasquet. Richard Gasquet, on l'a oublié. Un petit peu. Où est Rafael Nadal ? Where is Rafael Nadal ? Il est au top. Richard Gasquet n'a pas appris de ses erreurs, ou très peu. Et Rafael Nadal a travaillé sur lui-même, a travaillé sur ses erreurs, a travaillé très très dur pour finalement arriver au point où il en est arrivé aujourd'hui. il a appris de ses erreurs. Est-ce que nous, chrétiens, nous sommes dans la même attitude à vouloir apprendre de notre péché au lieu de pleurnicher pendant des années et des années en disant « je ne me pardonne pas à moi-même, patati patala ». Un peu provocant, hein, mais bon, paf paf. Donc voilà. Ah, comment pouvons-nous rester enfermés sans trouver d'issue dans nos péchés ou nos ennemis ? Par l'exemple de la mentalité française qui peine à se débarrasser de la culture de la honte condamnatoire face à l'échec, nous voyons que nous sommes conduits à la destruction sans espérance possible. Nous nous identifions au ratage. Le mot hébreu, d'ailleurs, qui désigne le péché, c'est rater le but. Voilà. Ouais. On essaie de viser. Il y avait Joy, là, hier, qui avait un arc, là. On était en bas dans le sous-sol, elle prenait un arc, puis je me dis, elle va me le mettre dans l'œil, la flèche. Rater le but, c'est rater la cible. Et on dit de nous, je suis un raté. Et nous signons notre propre condamnation. Il faut pourtant dire, j'ai fait une erreur, dans un premier temps d'humilité, humilité nécessaire, ce qui te plaît Seigneur, c'est un cœur brisé et humilié, on est d'accord, l'humilité est absolument nécessaire, c'est le principe numéro un qui doit nous diriger dans la vie. J'ai fait une erreur, mais il faut s'arrêter et ne pas dire, je suis une erreur. Est-ce que certains se sentent visés là ? Un petit peu quand même, hein. Ouais, d'accord. Bah écoutez, voilà, hein. Vous avez fait des erreurs, mais vous n'êtes pas une erreur. Une juste connaissance et reconnaissance de nous-mêmes sera toujours en parallèle avec notre avancée dans la connaissance de qui est Dieu. Il nous faut pleinement reconnaître notre péché, on est d'accord, avant de tirer des leçons d'humilité et de sagesse, mais ne pas s'identifier à lui. Notre problème, c'est que on finit par s'identifier au péché. C'est une erreur que Dieu ne commet pas. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Mais un esprit sincèrement et profondément humilié nous rouvre la porte à la joie et à la libération offerte en Jésus-Christ. Expérience et reconstruction sont à la clé. Je tire des leçons, je me projette dans l'avenir, je rebondis et je ne m'arrête pas à la repentance seule. Dieu est un Dieu d'espérance et là, je tire les leçons de ce que j'ai appris. Je disais ce matin ou hier soir à la famille Hubert, je ne sais plus lesquelles, pardonnez-moi, il y en a beaucoup, qu'on avait passé une période noire dans notre vie chrétienne avec Joy, j'avais mangé mon pain noir et depuis très longtemps, merci Seigneur, on mange notre pain blanc. Et dans cette période de pain noir, on a vécu la trahison, des couteaux dans le dos, tout coup à coup et fili, comme disait César à son fils Brutus, toi aussi mon fils. Parce que c'est ça, hein, c'est les fils hein, qui poignardent, hein. C'est pas les lambda anonymes, hein. C'est les filles et les fils hein, qui poignardent. Mais je puis dire par la grâce de Dieu qu'on est toujours là, Joy et moi, on est toujours dans le ministère et on a été vraiment humblement très très richement bénis. Mais j'ai appris, c'est là où j'ai le plus appris, où j'ai appris à aimer, à pardonner, où j'ai appris à ne pas faire des erreurs, à être délicat, à ne pas me prendre la tête, comme on dit. Les jeunes, ils appellent ça se prendre le melon, avoir le melon. J'aime bien cette expression. Oh, il a pris le melon. Wow. Voilà, c'est embêtant. Quand on se prend le melon, après, c'est bon, on finit par descendre. Alors, je pourrais montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. C'est-à-dire que David non seulement sort de l'expérience de la repentance profonde, mais en plus, il est rendu opérationnel. Il est rendu opérationnel, non seulement pour lui-même, mais vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'il devient utile pour les autres, ce qui est la direction de l'amour. Au travers de mon péché, au lieu de pleurnicher pendant 107 ans, oui Seigneur, j'ai péché, oui Seigneur. Il y a des gens qui étaient scandalisés quand ils ont vu que David, après la mort de son fils, s'est levé, s'est lavé, est reparti. Alors, tu fais quoi ? Oh, ben, ça va, c'est bon. La vie continue, quoi. Et la grâce est la grâce. Là où le péché a abondé, la grâce va surabonder, point. Terminé. Hein. Donc l'illustration que j'ai choisie pour expliquer comment rebondir après un échec et ne pas rester enfermé dedans est valable pour construire le chemin vers la réussite, mais reste limitée dans sa dimension. Car que nous apprend le succès après tout ? André, le succès, ça t'a pris quoi ?
Bah, c'est grisant quand tu voilà parce que tout le monde t'applaudit, voilà, c'est ça. Mais tu sais pas pourquoi t'as réussi en général, parce que ça peut être le coup de bol, etc. quoi. Donc pour moi en tout cas.
C'est... Donc le succès en fait c'est aléatoire.
Ouais, tu sais.
Voilà. Le succès est aléatoire, bah, c'est vrai. Le succès c'est pas le but de la vie. Watchman Nee a terminé. Misérablement, en mourant dans un camp de concentration, il n'avait plus vu sa femme. On a retrouvé des textes bibliques dans son vieux manteau. Il a souffert jusqu'au bout, il a été témoin jusqu'au bout, et personne n'était là pour l'applaudir quand il est mort. Est-ce qu'il a raté sa vie ? Je nous laisse réfléchir là-dessus. Bien sûr, c'est l'acquisition d'une joie et une satisfaction, mais qui est éphémère, parce qu'en fait, jusqu'à la fin, nous devrons construire. Et construire, c'est construire sur les échecs qu'on a commis, la reconnaissance de notre fragilité, la nécessité de l'humilité à tout prix, le fait d'être droit, loyal. Nous avons vu que trop de succès tout le long de notre existence ne nous apprend rien de la vraie vie, comme Gasquet, qui n'a pas su tirer des leçons de ses succès phénoménaux contre Nadal. Voilà, c'est un exemple, hein. Il est sympa, Nadal. Moi, j'aime bien ce gars. Il est monstrueux. On dirait un canon de 150. Mais bon, voilà, il est vachement sympa. Moi, j'aime bien. Ouais. Peut-être des gens qui ont appris de la vie, finalement. Et ce qui est dingue, c'est que si nous avons trop de succès, surtout dans notre jeunesse, cela nous rend d'autant plus vulnérables. Parce que le jour où vient une grande épreuve, on s'écroule. Il est bon pour l'homme de porter le joug pendant sa jeunesse. Est-ce que vous avez pensé à ça ? Oui, c'est bon de porter le joug, le poids, l'épreuve dans la jeunesse, parce qu'on se construit pour pouvoir durer. Est-ce que notre but est de réussir ou de durer ? Peut-être y a-t-il une subtilité dans cette affaire-là. Un de mes jeunes couples, là, enfin à l'église, là, Sacha, qui est architecte, et puis on est en train d'agrandir les locaux. On a besoin de grandir au niveau des bâtiments à l'église. Et puis on a eu un refus de permis de construire. Il n'a pas supporté ça. Hein. Il m'a dit, tu sais pourquoi ? Parce que j'ai eu l'habitude de toujours tout réussir dans ma vie. Sauf mon divorce, mais bon, ça, voilà. Mais sinon, au niveau professionnel... J'ai tout réussi. Et puis là, je supporte pas. Je dis, bon, tu vas te calmer, ouais, maintenant, c'est bon. Et puis tu vas voir, hein, faut apprendre. Hein. Pas grave, c'est un passage. On finira bien par bâtir chez nous. L'expérience du péché, la rencontre de Dieu lui-même, au travers du pardon obtenu, les bienfaits de la grâce, nous montrent que ce ne sont pas nos réussites et nos succès qui nous rendent véritablement heureux en finalité. Ce qui nous rend heureux, frères et sœurs, c'est la paix et le repos reçus au travers de la présence et de l'amour de notre Père en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Dans l'affaire de David, c'était « Seigneur, fasse que j'ai encore plus de femmes finalement, qu'au moins j'ai une vie sexuelle normale, parce que sinon peut-être que je vais avoir droit à une interdiction d'avoir des relations sexuelles avec les femmes maintenant. » Ah non, 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 il n'a pas sorti une horreur pareille, il a simplement dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Le reste, c'est aléatoire. David le découvre, lui à qui Dieu n'a pas accordé son propre désir d'accomplissement en lui refusant la construction du temple. Tout à l'heure, tu avais fait allusion, parlant de David, « Je voudrais construire un temple, Seigneur, alléluia. » « Non, c'est pas toi !»« Comment ça, c'est pas moi ?»« Non, c'est pas toi, ça sera pas toi. Tu as trop de sang sur les mains, ça va te prendre la tête, tu vas prendre le melon. Alors, le melon, tu l'as déjà pris, c'est pas la peine de recommencer. » C'est ton fils qui va le faire. » Alors j'aimerais que nous restions avec ce verset « Ne me renvoie pas loin de ta présence, ne me reprends pas ton Esprit Saint. » Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi, les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté. Et je terminerai, parce que le temps tourne, par ce passage de Michée 6:8 qui, je pense, va nous aider à, je l'espère, à nous aider tous ensemble à construire et à reconstruire. Est-ce qu'on est prêt à construire, à continuer ? Pour ceux d'entre vous qui sont passés par des moments, peut-être voir des péchés difficiles à gérer, difficiles à accepter, le Seigneur te fait savoir ce qui est bon. Voici ce qu'il demande à tout être humain. Fais ce qui est juste, aimer et agir avec bonté et vivre avec son Dieu, suivant les traductions, l'humilité ou la simplicité, ce qui est à mon avis la même chose. Être simple, être humble. J'aimerais juste faire un appel aux jeunes. Florence, t'en penses quoi ? C'est possible ? Tu es dans une situation où tu dois prendre des décisions pour ton travail, pour tes études, et la peur de l'échec te mine, t'angoisse. Tu as l'impression que tu es devant un précipice et que tout ce qui t'attend, c'est le vide. Et tu dis, je vais tomber. Le Seigneur, ce matin, te dit que de tout échec que tu expérimentes, de tout moment difficile, de toute fragilité, le Seigneur en fait une force et te permet d'aller plus loin. Tu te dis que tu vas être seul, que quelque part, personne ne t'entendra. Et que le silence répond au silence. Dieu te parlera toujours par un murmure doux et léger. Il ne va pas faire du ramdam, il ne va pas faire de bruit. Mais par contre, pour toi, l'échec va devenir expérience. La fragilité va devenir force. La tristesse et le sentiment d'inutilité va devenir identité en Christ, qui est ton roc. Alors, lève-toi, marche par la foi. Le Seigneur bannit ta honte, le Seigneur bannit ta tristesse, lève-toi. Et comme Pierre le disait au paralytique, à la porte de Jérusalem, lève-toi et marche. Amen.
Je trouve extraordinaire, je pense que Dieu vraiment nous parlait aussi sur ce sujet parce que la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de prêcher et j'ai évoqué aussi l'échec et la faiblesse. Donc, je pense que le Seigneur veut vraiment nous dire quelque chose sur ça. Donc, merci beaucoup Philippe pour ce message qui parle à nos cœurs et je vais juste prier pour clôturer ce message. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es ce Dieu si fidèle, si bon, plein de grâce, plein d'amour. Et effectivement Seigneur, tu ne vois pas les choses comme nous les voyons. Et donne-nous tes yeux, donne-nous ton regard sur nos vies, sur nos échecs, que nous puissions effectivement voir cela comme des expériences qui nous font grandir, qui nous rapprochent aussi de toi. Et je te prie, Seigneur, pour la parole qui a été donnée aussi, que là où les personnes qui se sont concernées, qu'ils puissent vraiment prendre cela à cœur. Et Seigneur, voilà, qu'ils ne laissent pas juste cette parole tomber, mais qu'ils la prennent vraiment dans leur cœur. Merci pour tes bienfaits, merci encore pour toutes choses, Seigneur, parce que tu es parfait, Seigneur, et tu es si présent dans chacune de nos vies. Amen. Comme vous le savez, dans notre église, on aime bien aussi prendre du temps pour fêter les anniversaires. Donc aujourd'hui, il y aura 4 personnes. Mais forcément, on va commencer par André, mon père. Donc si tu peux venir, ouais, je te laisse peut-être te dire bonjour. Et je vais demander si toute l'église veut bien se lever pour participer à la prière, parce qu'on ne va pas laisser tout le monde prier, sinon on en a encore pour 3 heures. Et je vais demander peut-être à toutes les personnes qui sont venues exprès, là, qu'on a fait venir de loin ou de moins loin, si vous voulez l'entourer. Donc voilà, donc ceux qui sont pas de l'église d'Aubergenville, je vais dire, si vous pouvez venir vous mettre à ses côtés. Et donc du coup, c'est pareil encore une fois, quand on peut pas laisser tout le monde prier, on a choisi des Philippes. On dit que c'est la journée des Philippes. Philippe prêchait. Donc on s'est dit Philippe Schmitt va prier, qui va prier au nom de l'église, on va dire, et Philippe Juston aussi, voilà, qui va prier au nom de peut-être de deux autres des invités. Donc voilà pour l'anniversaire. Est-ce que tous les invités sont venus? Je ne sais pas si Serge, je le vois pas. Il est parti. Ah, Serge a dû partir. Voilà, bon, en tout cas, n'hésitez pas. Voilà, donc je passe. Quel Philippe commence? Allez, je te laisse commencer.
Seigneur Jésus-Christ, nous sommes heureux d'être ensemble ce matin pour entourer plus spécialement André. Tu vois, les témoignages qui ont été partagés, et puis ce que Michel aussi nous a partagé, et cela m'a fait penser à ce que tu as dit, que les hommes puissent voir nos bonnes œuvres, non pas pour nous mettre sur un piédestal, mais pour que la gloire te soit rendue à toi. Alors Seigneur, notre Dieu, c'est ce que nous voulons faire maintenant ensemble. Te remercier, te louer pour André, pour Michel, que tu as donné à cette église. Te remercier, te louer pour la bénédiction qu'ils ont pu apporter de ta part à chacun des membres de cette église. Te remercier, te louer pour la bénédiction qu'ils ont pu être, qu'ils sont, pour ceux qui sont, que tu places sur leur route. Et puis aussi, j'ai à cœur spécialement de te remercier aussi, de te louer pour l'implication d'André dans la pastorale du Mantois, avec ce désir de manifester de façon concrète que même si nous sommes de différents milieux ecclésiastiques, nous formons une seule et même famille, ta famille. Alors, notre Dieu, vraiment, béni sois-tu pour cela. Que tu veuilles continuer à accompagner André, Michel, de ta grâce. Parce que nous savons, nous avons besoin de ta grâce dans notre vie. Que tu veuilles continuer à les bénir ensemble, en couple, en tant que responsable aussi d'église. Et que tu veuilles continuer à les accompagner pour qu'ils soient en bénédiction à ceux que tu places sur leur chemin. Nous te le demandons, notre Dieu, par Jésus-Christ. Amen.
Amen.
C'est pas mon habitude d'écrire des prières. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, moi je te remercie aussi pour André. Merci de nous l'avoir donné, Seigneur. Merci de l'avoir donné à ton Église. Et je te remercie, Père, pour toutes ces années à ton service, ces 50 années dont son épouse a parlé. Je te remercie, Seigneur, pour le secours que tu as été pour lui et pour sa famille, pour cette assemblée, Seigneur, pendant les périodes difficiles. Je te remercie pour sa persévérance avec son épouse à vouloir voir les familles guéries, libérées, équipées pour être des ambassadeurs dans ce monde, Seigneur. Merci, Seigneur, pour son amour et sa recherche de la compréhension des principes de ton royaume, des vérités bibliques. Merci parce que tu es venu le chercher et tu as permis de connaître une puissante révélation de toi dans les premières années de sa vie chrétienne, Seigneur. Seigneur, maintenant, je prie que ton feu brûle encore dans son cœur, dans ses entrailles, et pas seulement, Seigneur, pour connaître des vérités, mais la vérité, Seigneur. C'est toi qui as allumé ce feu et qui donne la grâce de l'entretenir, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que son cœur soit comme le cœur des disciples d'Emmaüs qui disaient « Notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Seigneur, accorde-lui de comprendre et entrer encore davantage dans les desseins que tu as établis de toute éternité pour lui. Bénis-le avec toute sa famille, enfants, petits-enfants, en voyant ton œuvre, ta bénédiction sur sa descendance. Accorde-lui, comme à Abraham, une heureuse vieillesse.